Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, le système solaire n'est autre que la banlieue de la Terre. Et oui, vu de l'univers, les 8 planètes sont une goutte d'eau. Je dis 8 puisqu'on ne compte plus Pluton. Jusqu'en 1920, notre connaissance du cosmos se limitait à notre Voie lactée, la limite de notre galaxie. Et il a fallu attendre Edwin Hubble pour prendre conscience de notre caractère infiniment petit par rapport à l'univers. Alors quand on parle de banlieue, on n'est pas encore certain de pouvoir poser tout de suite le pied sur Mars, mais on y pense et la réalité rejoint peu à peu la science-fiction. Cette émission Éclairage vous propose de faire une petite révision quant à vos connaissances en matière d'univers. En compagnie de notre invité, nous parlerons de la lumière, essentielle en astronomie. Nous passerons par le nuage de Oort, nous pointerons nos télescopes vers les filaments, cordons ombilicaux cosmiques. Nous nous intéresserons à la matière noire, à l'univers en expansion et à l'énergie sombre découverte en 1998. Pour ce faire, je me suis appuyée en grande partie sur l'exposition Cosmos, un cheminement jusqu'aux confins de l'univers qui se déroule du 23 juin au 22 novembre 2009 au Palais de la Découverte à Paris. Et pour nous rafraîchir la mémoire, la commissaire de l'exposition Françoise Combes est avec nous. Françoise Combes, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes membre de l'Académie des sciences, astronome au sein du laboratoire d'études du rayonnement et de la matière en astrophysique à l'Observatoire de Paris, en d'autres termes le LERMA. Vous êtes, je viens de le dire, donc commissaire scientifique de l'exposition Cosmos, avec deux autres personnes, citons-les, François Hamer et Jean-Michel Halimi, et puis précisons également le nom de Sabrina Thierry, médiatrice scientifique pour cette exposition. Alors, comme c'est rappelé au début de l'exposition, l'astronomie, c'est avant tout une affaire de lumière et d'ondes. Vous pourriez nous en dire plus, s'il vous plaît, Françoise Combes ?
Oui, alors justement, dans cette exposition, on a d'abord fait un petit rappel de toutes les longueurs d'ondes qui nous servent comme outils pour explorer l'univers. Donc ça va de la radioastronomie, du millimétrique, qui va avoir un futur instrument mondial, ALMA, aux confins du Chili, du désert d'Atacama. Il y a le radiocentimétrique, l'on connaît bien. Ensuite, il y a l'infrarouge. On a un satellite actuellement Spitzer. Et puis, en mai 2009, a été lancé le satellite Herschel, qui va nous faire de superbes images. Ensuite, on a le visible, on connaît bien, avec le télescope spatial Hubble. Il y a aussi toutes les énergies plus grandes, comme l'ultraviolet, avec le satellite Galax, les gamma rays, les rayons gamma, qui sont vus avec intégrale, et on s'arrête là.
Donc, sans lumière, en fait, on n'aurait pas d'astronomie tout court.
Voilà, c'est l'essentiel, 90% de nos outils pour regarder l'univers. Il y a tout de même autre chose, on peut aussi regarder les neutrinos. Il y a des télescopes à neutrinos, ce sont de grandes étendues qui essaient de capter ces neutrinos, et puis des rayons cosmiques, comme l'observatoire Auger en Argentine.
Donc, vous avez cité tous ces satellites. Citons également l'ELT. Alors, parlons de l'ELT, puisqu'il y a une maquette dans cette exposition. Et l'ELT, donc, qui veut dire Extremely Large Telescope, donc on comprend, hein, extrêmement large télescope, avec un miroir de 42 mètres de diamètre. Donc, c'est le plus grand jamais créé.
C'est le plus grand projet, en effet, de 42 mètres de l'Europe. Il faut dire qu'il y a des concurrents, quand même, qui font 30 mètres aux États-Unis. Et ça va être sans doute quelque chose qui va arriver en 2015, un petit peu. Au-delà peut-être, parce qu'il y a toujours du retard. Mais il y a au moins deux ou trois télescopes qui sont en concurrence pour l'optique et l'infrarouge.
Avec toujours l'idée d'en savoir plus sur l'origine de l'univers.
Oui, parce que pour aller loin dans l'univers et regarder les petites galaxies très près du Big Bang, il faut absolument des grandes surfaces.
D'où l'importance donc, de ce diamètre de 42 mètres donc, pour l'extrêmement large télescope, avec, j'imagine, une technologie adaptée. J'imagine que, bien sûr, on parle d'optique adaptative dans le cadre de l'extrêmement large télescope.
Comme
est-ce que vous pouvez
nous
en dire un peu plus sur l'optique adaptative
essaie de s'affranchir des turbulences de l'atmosphère, donc essaie de corriger. On essaie en temps réel, donc avec des temps très très petits, millisecondes, de corriger les déviations de rayons lumineux par la turbulence de l'atmosphère.
Alors, pour schématiser un peu l'ensemble, c'est comme si on regardait l'autoroute, par exemple, et avec cette chaleur qui fait que ça déforme un peu la vision.
Et même les étoiles scintillent. On sait que sur Terre, on voit les étoiles scintiller. C'est justement la turbulence de l'atmosphère. Lorsqu'on regarde les étoiles avec le télescope spatial, où il n'y a pas d'atmosphère, les étoiles ne scintillent pas.
Alors, j'ai parlé aussi, pour présenter cette émission, du nuage de Oort. Alors, il faudrait que vous nous en disiez un peu plus sur ce nuage, sur son origine, sa composition et puis sur sa situation. Alors, je ne vais pas parler de situation géographique pour l'univers, mais c'est un nuage très éloigné.
Les confins du système solaire, en fait. Donc, c'est quand même encore notre banlieue. Ce n'est pas vraiment l'univers. C'est encore la banlieue. C'est au-delà des planètes. Il y a ensuite des petits corps. Et puis, on pense que dans les nuages de Oort, se naissent les comètes, les petits corps qui vont peut-être avoir des trajectoires un petit peu elliptiques qui vont permettre de s'approcher du Soleil. Mais tout ça, c'est quand même la banlieue. Et dans cette exposition, on a voulu aller beaucoup plus loin. Donc, on commence en effet par le système solaire. Mais ensuite, on essaie d'avoir la galaxie, de décrire la Voie lactée. Et puis ensuite, les galaxies plus proches. Et puis, en fait, les filaments de galaxies, et on remonte le temps jusqu'au Big Bang. Il faut dire que dans cette exposition, il y a une fresque qui nous aide à ce chemin-là. Donc, on commence en effet à dérouler toutes ces échelles. L'échelle n'est pas linéaire parce que ce serait des échelles trop grandes. Nous avons un univers qui fait 13,7 milliards d'années en âge. Donc, en distance parcourue par la lumière, ça va être comparable. Et pour faire ces milliards d'années-lumière, il nous faut une échelle logarithmique, sinon on ne pourrait pas voir les premiers objets.
Vous parlez de filaments, justement, intéressons-nous à cet aspect-là. Alors, dans notre univers, il y a donc des filaments. Alors, de quoi sont-ils composés et est-ce qu'ils sont à l'origine de la création des galaxies ?
Oui, voilà, c'est ça. En fait, quand on fait des simulations numériques dans l'ordinateur pour voir comment se sont formées les structures, on démarre d'un univers tout à fait homogène. Et on va voir qu'en effet, le satellite WMAP a permis de montrer que l'univers était très, très homogène au départ. Donc, ensuite, par effondrement gravitationnel, les structures vont s'effondrer en filaments et grands murs. Et ce sont des filaments de matière. Alors, il y a de la matière noire, il y a aussi beaucoup de gaz. Et puis, le gaz va s'effondrer dans ces filaments et former des galaxies, donc des étoiles ensuite qui vont se former dans les galaxies. Donc, en fait, les filaments, c'est le fil conducteur dans lequel vont se trouver les galaxies.
Et ces filaments ont été découverts assez récemment, je crois que ça date de 2003.
Peut-être un petit peu avant, parce que lorsqu'on faisait des cartographies de l'univers, on repère les galaxies par leur vitesse d'expansion. Elles ont une vitesse d'expansion d'autant plus grande que leur distance est grande. Donc, ça permet de les repérer dans le ciel. Et on arrive à donc avoir une carte à trois dimensions de l'univers. On voyait que toutes ces galaxies étaient alignées sur les filaments. Donc déjà, la vision, la cartographie à trois dimensions des galaxies nous montre les filaments.
Parmi ces structures filamentaires, puisque c'est le terme utilisé, on trouve le grand mur de Sloan.
Voilà, le grand mur. Alors, il y a plusieurs grands murs. En fait, autrefois, avant que le Sloan, c'est un grand relevé de galaxies qui fait à peu près 1 million de galaxies. Juste avant, on avait un autre relevé, le relevé de Harvard, en fait, qui faisait des centaines de milliers de galaxies seulement. Et on avait déjà un mur, mais celui-ci était assez petit. Alors, mur, ça veut dire qu'il n'y a pas seulement des filaments à une dimension, il y a aussi des structures à deux dimensions, qui sont comme des plans. Pas tout à fait plan, bien entendu, mais enfin des structures comme des draps. Donc on avait un petit mur déjà, et là on a retrouvé une autre structure à deux dimensions, qu'on appelle grand mur, parce qu'il est plus grand que le premier. Mais sans doute, si on avait d'autres instruments pour voir encore plus loin, on aurait d'autres grands murs encore plus grands.
Donc toutes les galaxies sont reliées les unes aux autres, en fait.
Voilà, c'est ça.
Par du gaz.
Filaments de gaz et de matière noire, probablement.
Vous parliez de matière noire, intéressant de matière noire. À la matière noire, surtout qu'en plus, c'est votre domaine, la matière noire. Une matière noire donc qui a l'étrange pouvoir d'opérer un effet de loupe, qui concentre la lumière sur des objets de l'univers qui seraient invisibles à l'œil nu.
Voilà, alors cette matière noire, en effet, elle est appelée noire parce qu'elle ne rayonne pas. Donc pour la cartographier, on a uniquement sa gravité. Donc en effet, dès qu'il y a une masse qui est très puissante, enfin, qui a beaucoup d'effets gravitationnels, les rayons lumineux des galaxies derrière sont déviés par cette masse. Alors ça peut être une masse d'un amas de galaxies qui dévie beaucoup. Et donc on en déduit toute la masse qu'il y a dans l'amas de galaxies par la déflexion des rayons lumineux et donc la déformation des galaxies derrière.
Alors aujourd'hui, ça paraît simple, comme vous l'expliquez, mais il y a encore peu de temps, on ne savait pas encore trop comment ça se passait, la matière noire, ce que c'était.
En fait, la matière noire, on l'a découverte depuis 1940, donc ce n'est pas trop récent. C'était Zwicky qui avait détecté, dans les amas de galaxies, il avait remarqué qu'il y avait des vitesses désordonnées qui étaient tellement grandes que s'il n'y avait pas eu cette matière noire, l'amas se serait évaporé tout de suite. Donc pour expliquer que l'amas est toujours là, il faut penser qu'il y a 100 fois plus de masse que la masse visible. Donc il avait déjà eu une petite notion de la masse manquante. Et puis les courbes de rotation des galaxies nous disent aussi que la matière autour de la galaxie tourne très vite. Et donc ça nous indique qu'il y a beaucoup de masse à l'intérieur de la galaxie. Donc, tous ces indices gravitationnels montrent qu'il y a beaucoup de masse, un petit peu partout, à toutes les échelles.
Donc, les filaments nous font parler de matière noire, nous font parler aussi de galaxies. Venons-en au carambolage de galaxies. Qu'est-ce qui va provoquer, en fait, cette attirance entre deux galaxies et qui va faire que soit la galaxie va englober, avaler la plus petite, ou alors vont fusionner toutes les deux?
En fait, c'est la gravité. Donc, la gravité attire. Elles ne sont pas, les galaxies ne sont pas réparties de façon homogène dans le vide interstellaire. Elles sont sur les filaments, ce qui les déjà les rapproche et ce qui les rend beaucoup plus sensibles à cette attraction gravitationnelle entre galaxies. Donc, elles se forment en petits groupes, en quelque sorte. Et donc, très vite, la gravité va les attirer. Et en plus, toute cette matière noire qu'il y a autour les rend beaucoup plus proches, hein, parce que la matière noire, ça va à 10 fois le rayon optique. Donc, on dirait qu'elles ne se touchent pas. En fait, elles se touchent par leur matière noire. Donc, elles sont beaucoup plus sensibles à cette interaction gravitationnelle.
Et à l'intérieur de ces galaxies, on trouve les trous noirs, hein, bien sûr, bien très différents de la matière noire,
oui.
Qui là aussi, là pour le coup, provoquent ces images un peu de tourbillon de galaxies.
Alors les trous noirs, ce sont vraiment quelque chose de tout petit dans le noyau de la galaxie. Il y en a un dans la Voie lactée, par exemple, qui fait quelques millions de masses solaires. Mais leur rayon d'action est tout petit. Donc, on verrait, il faut vraiment avoir beaucoup, beaucoup de résolution spatiale. Comme par exemple dans la Voie lactée, on l'a parce que la Voie lactée a un centre très proche. Et on arrive à voir des étoiles qui tournent très vite autour du trou noir avec des vitesses de 1000 km par seconde. Et on s'aperçoit de tous les effets du trou noir. Mais en regardant vraiment très, très proche, il faut avoir une distance qui est la distance... du système solaire, en quelque sorte, hein, des distances de notre banlieue, la banlieue du trou noir. Mais le Soleil, qui est très loin du centre de la galaxie, n'a aucune idée de ce qu'est le trou noir, en fait.
Ça, c'est pour la galaxie, ou les galaxies, hein, puisque je pense qu'à ce jour, on ne peut pas toutes les répertorier, hein, toutes les galaxies.
Alors, on peut quand même, si justement, dans cette exposition, on voit que le champ profond du télescope Hubble a permis de cartes voir très très loin. Donc, dans des petits pinceaux, hein, pas tout le ciel, mais quelques minutes d'arc au carré. Et on s'aperçoit, on peut regarder même à l'œil, on peut faire des zooms, etc. Cette façon interactive, on s'aperçoit qu'il y a à peu près 1000 galaxies par minute carrée. Et on peut extrapoler à tout le ciel, parce que ces régions que l'on observait n'ont rien de particulier. Donc on peut voir qu'il y a à peu près 200 milliards de galaxies dans l'univers observable. Alors évidemment, l'univers, on n'en sait rien, il est sans doute infini. Mais on ne pourra voir qu'à l'intérieur de l'horizon de l'univers, l'horizon étant la distance à laquelle le rayon lumineux mettra tout l'âge de l'univers à nous parvenir. Donc on ne pourra pas voir au-delà. Et donc ça définit un univers observable. Et dans cet univers observable, il y a 200 milliards de galaxies.
Un univers, donc, comme vous le disiez, en expansion. Un univers en expansion, mais aussi en accélération, qui semble être les résultats d'une mystérieuse énergie sombre. Alors, on parlait de matière noire, de trous noirs, et là, il y a l'énergie sombre.
Alors ça, c'est justement la découverte récente de 98 dont vous parliez, qui est surtout aux supernovas, qui sont des chandelles standards, en quelque sorte, qui nous permettent de jalonner les distances. Et on s'est aperçu qu'elles étaient plus loin à une expansion donnée, elles étaient plus loin que prévu, donc l'expansion s'accélère, et s'accélère très vite. Et en effet, aucune matière ne peut faire ça. La matière diminue l'expansion de l'univers, parce que la matière a une action gravitationnelle attirante, donc elle ralentit l'univers. Pour l'accélérer, il faut une force répulsive, donc c'est ce qu'on appelle énergie sombre, qui n'est pas du tout de la matière, donc c'est un nouvel élément, qu'on peut appeler cinquième élément, mais qui est complètement inconnu.
Et d'accord, et sur lequel on travaille actuellement,
j'imagine. On travaille, bien entendu.
Cette énergie sombre, donc, qui permet une accélération donc de l'univers, on parlait de l'expansion. Alors peut-être revenir sur ce système d'entonnoir en fait, qui grossit avec les unités astronomiques.
Alors vous faites sans doute allusion à ce qu'on a représenté dans l'exposition.
Exactement.
Là, une espèce de cône là, qui en effet représente l'expansion très très lente de l'univers, du centre. En fait, il faut quand même peut-être dire auparavant que lorsqu'on regarde très loin dans l'univers, cela revient à remonter le temps. Donc on est en train de remonter le temps, et ce cône est justement comme axe le temps que l'on remonte. Et l'axe du cône, le point du cône, c'est le Big Bang en fait. Donc on a un Big Bang, et puis au-delà, le volume que l'on peut observer augmente dû à l'expansion. Et puis il y a aussi quelque chose dont on parle pas beaucoup parce qu'il est complètement inconnu, c'est ce qu'il y a avant l'expansion. Il y a sans doute une inflation énorme de l'univers qui était encore beaucoup plus petit, mais c'est bien plus petit que la première seconde avant juste après le Big Bang. Et là, il y a une inflation de 60 ordres de grandeur des tailles de l'univers qui est énorme par rapport à l'expansion très lente que l'on voit aujourd'hui même accélérée.
Alors nous invitons les auditeurs à aller faire un tour à cette exposition au Palais de la Découverte qui s'appelle donc Cosmos, un cheminement vers l'univers. Précisons que donc, dans cette exposition, donc, bien sûr, il y a, vous parliez donc de ce cône qui représente bien l'univers en expansion, cette fresque qui permet aussi d'avoir une idée de l'étalement, des échelles de temps. Et puis il y a aussi un film en 3D auquel vous avez pleinement participé, qui permet justement de vraiment bien comprendre, par exemple, les structures filamentaires dont on parlait il y a quelques instants, et puis tout simplement la formation de l'univers.
Oui, ce film reprend en fait tous les thèmes de l'exposition, c'est-à-dire c'est un voyage à partir du système solaire, à partir de notre banlieue. Donc on commence par voir les planètes, un petit peu, leurs orbites. On sort du système solaire, on voit les satellites pionniers, c'est un satellite artificiel. Ensuite, on voyage un petit peu dans la galaxie, on sort de la galaxie. On voit toutes ces cartographies de galaxies du Sloan, etc., que l'on a fait récemment. Et puis le reste se poursuit par des simulations numériques, puisque là, il faut vraiment inventer, imaginer. Et ces simulations numériques représentent beaucoup ce que l'on voit dans les filaments, mais on a quand même la matière noire, le gaz qui est représenté en couleur bleue pour le gaz froid, chaud pour rouge pour le gaz chaud. Et puis on s'aperçoit ce que deviennent les galaxies. Donc les galaxies, au début, elles sont toutes petites, sont des petites galaxies naines qui grossissent par fusion de galaxies. Donc c'est une formation hiérarchique. Et on voit que les galaxies spirales fusionnent en formation d'elliptique. On voit des amas de galaxies qui sont à la croisée des filaments. Et dans les amas de galaxies, il y a beaucoup de gaz chaud, donc de gaz rouge, qui fait des ondes de choc et puis balaye le gaz des galaxies spirales. Donc les galaxies changent de morphologie, vieillissent, forment des étoiles. Et toutes ces simulations à trois dimensions, on a l'impression d'y être et ça fait bien comprendre comment s'est formé l'univers.
Je l'affirme, on y est complètement, surtout avec ces petites lunettes qui permettent de voir le film en 3D. Quel est le public que vous visiez à travers cette exposition ?
Alors, j'ai l'impression que c'est un peu tout public, parce qu'il y a de tous les niveaux. Il y a beaucoup de choses écrites sur les parois, on peut se cultiver, sur les travaux récents, parce qu'en fait, ça, c'est vraiment les découvertes de la dizaine dernière d'années. On a des expériences, par exemple, de lentilles gravitationnelles, puisque ce sont ces outils qui nous permettent de voir la matière noire. Donc, on a par exemple des tessons de bouteilles qui déforment les galaxies derrière. Et c'est assez ludique. On a un calendrier cosmique. On a aussi une représentation de filaments avec du vent dans les filaments et des lumières laser pour les galaxies. Donc, on peut s'amuser. Par exemple, il y a un petit tableau interactif où on donne son âge et on peut dire quelle est l'étoile qui, à votre naissance, a envoyé le premier rayon lumineux qui arrive aujourd'hui. Donc ça vous permet de remonter le temps. Donc en fait, on peut s'adresser aux enfants qui peuvent... Il y a des écoles qui viennent voir le film et qui posent des questions. Mais ça peut être aussi de 7 à 77 ans.
Alors, je redonne le titre de l'exposition Cosmos, un cheminement jusqu'aux confins de l'univers, donc, qui se déroule du 23 juin jusqu'au 22 novembre 2009 au Palais de la Découverte à Paris. Et donc, vous êtes la commissaire de l'exposition parmi donc, les trois personnes commissaires de l'exposition. Merci beaucoup, Françoise Combes.
Merci.
Et j'espère à bientôt pour une prochaine exposition. Au revoir.